Manche et ses magazines.
Alors, je m'appelle Thomas Veillet, j'ai 40 ans. Et accessoirement, bon, pas accessoirement, mon métier principal, c'est de gérer un fonds. Mais je suis aussi ce qu'on appelle un trader.
C'est donc l'histoire d'un trader, dit aussi opérateur de marché financier. Il achète et vend des actions, des obligations, il analyse les tendances, il prend des positions, il gère des risques, bref, il fait de l'argent avec de l'argent. Par les temps de crise qui courent, ce métier est devenu de plus en plus suspect. Thomas Veillet, lui, l'exerce depuis plus de 20 ans. Longtemps employé de grandes banques, il est passé par une période de chômage et est devenu trader indépendant il y a quelques mois. Passionné d'écriture, il est aussi blogueur. Levé à 4h du matin, il débute chaque journée en rédigeant son journal en ligne, un blog devenu fameux pour les passionnés des marchés, le Morning Bull, un blog dont l'ambition est de rendre digestes les informations économiques. Alors, qui sont les traders? Que font-ils? Sont-ils déconnectés de la réalité ou au cœur de celle-ci? Nous parlons trading ce matin dans Zone Franche avec nos invités, Paul Dembinski, économiste et directeur de l'Observatoire de la Finance, et Tammy Cabage, agrégé d'économie et de gestion, auteur de « La psychologie des grands traders » aux éditions Erol. Mais tout de suite, rendez-vous à Plan-les-Ouatt, où vit Thomas Veillet. Il rentre tout juste d'un voyage éclair en Belgique, où il est allé expliquer son métier à des étudiants en économie. Il nous emmène ce matin-là vers son bureau, dans sa berline familiale, dans la campagne, en dehors de Genève, où les loyers sont plus abordables. Bonjour, bienvenue dans Zone Franche, voici Banco, dans une réalisation de Samuel Morin.
Zone Franche, Véronique Marty.
Bon, ouais, j'arrive, je levé à 5h du matin de Bruxelles ce matin, sauté dans l'avion, rentré, j'ai pris la voiture et puis maintenant on va aller voir ce qui se passe dans la réalité de ce monde merveilleux qu'est la finance mondiale.
J'imaginais pas comme ça la voiture d'un trader.
C'est la voiture d'un père de famille, d'abord, avant d'être la voiture d'un trader. Quand vous avez trois enfants qui mangent dans la voiture, voilà. Non, c'est ça aussi qui est assez drôle, c'est justement cette image. Vu les gens qui ne sont pas du tout dans le métier, tout ce qu'ils connaissent de la finance, c'est Wall Street, où j'ai des fois l'impression que si je dis aux gens « Ah oui, je suis un trader », je dirais « Je suis un trafiquant de drogue », ce serait pareil finalement. Quoi. Donc j'essaie juste de temporiser en disant non, moi je suis quelqu'un de gentil, je gagne ma vie correctement, je gagne pas des millions par année, et puis je me bats pour gagner ma vie.
Et vous dites combien vous gagnez?
Oui, je dis combien je gagne. Aujourd'hui, grosso modo, moi je gagne une centaine de milliers de francs par année, un petit peu plus. Mais parce que je suis indépendant, et je me lance dans un nouveau projet, et je gagne pour l'instant pas des milliers, des cents, mais le but c'est de développer ça. Maintenant, la dernière fois que j'ai travaillé dans une banque, c'est-à-dire il y a une année et demie, deux ans, j'étais à peu près à 200 000 francs par année, plus après un bonus qui peut osciller entre 20, 50, 100 000 francs dans les très bonnes années. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je fais un métier que si c'était pas moi qui le ferais, il y en a un autre qui le ferait. J'ai rien fait de mal. Je me sens pas coupable d'une crise quelconque ou quoi que ce soit. Et puis, j'aime mon métier et j'aime ce milieu-là.
Il y a un profil de trader?
Il n'y a pas de formation pour dire je veux devenir trader. On peut étudier. Alors, il y en a qui ont fait beaucoup d'études, il y en a qui viennent de tout et n'importe quoi, de l'agriculture, de la mécanique, qui étaient apprentis bancaires, il y a vraiment de tout. Après, c'est plutôt une question d'instinct et de compétences, parce que un gars, s'il vous fait gagner 30% par année sur l'argent que vous lui confiez, qu'il vienne de l'agriculture ou qu'il ait une licence en économie et une licence en physique nucléaire, le résultat c'est le même, on s'en fiche. Donc c'est vrai que du coup, il y a une espèce de caractère et on se retrouve assez bien dans ce métier où généralement quand on se rencontre, on parle la même langue, c'est des gens qui sont très cash dans la manière de dire les choses, qui prennent pas de détours, qui prennent des décisions rapidement. On a tous un peu les mêmes caractères. C'est parti. Bienvenue dans le monde des salles de trading. Très seulement. Tout droit là-bas.
Bonjour.
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 C'est à vous tous ces bonbons?
C'est là. C'est compulsif. C'est où ça, où la cigarette?
On essaie de me soigner.
C'est des petits nounours Haribo avec des petites bouteilles de coca de couleur.
Voilà. Okay. Merci beaucoup.
Alors, justement, puisqu'on est arrivé là, on est arrivé dans votre bureau où il y a, on va dire, 1, 2, 3, 4...
Oui, 6 postes de trading, là.
6 postes de trading, mm-hmm. D'accord. Et vous, c'est quoi votre métier?
Donc, je gère un fonds. Donc, il y a quelques années en arrière, j'ai des clients qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi tu ne montes pas ton propre fonds ?» Aujourd'hui, avec les structures qui existent dans le monde, on peut facilement créer sa propre structure. Monte un fonds avec les clients que tu as, ben, ils mettent de l'argent dedans et tu le gères. Alors j'ai développé ma stratégie, j'ai créé mon propre fonds, et puis bah, depuis début septembre, bah, je le gère. Voilà.
Donc vous avez plusieurs personnes qui vous ont donné de l'argent, ouais. Et vous faites fructifier cet argent.
C'est l'idée, ouais, effectivement.
Il y a combien de personnes?
Ah, ça je peux pas dire. C'est des choses que ça touche au secret bancaire, on va dire. Donc ça je peux pas aller dans les détails sur ce genre de choses-là.
Et le montant du fonds?
Écoutez, pour l'instant il est autour de 5-6 millions. Je gère à peu près un montant comme ça. Et puis, là-dedans, j'ai une stratégie de 10% qui me permet de faire du trading.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a une 90% qui est placée à long terme.
Moyen terme, on va dire, oui. Et puis, 10% qui est en court terme. C'est ce qu'on appelle le trading. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, ce que je fais dans la journée, sauf idées spécifiques, le soir, je revends tout et j'ai plus rien. Donc, ces 10% sont cash. Ce qui me permet d'abord d'avoir toujours du cash à disposition, et puis deuxièmement d'avoir été actif durant la journée, mais de ne pas avoir un risque supplémentaire à gérer la nuit. Parce qu'on sait que bah, des fois, il peut se passer des trucs pendant la nuit, puis que ça ne s'arrête pas de tourner. Quand ce n'est pas New York, c'est Tokyo. Quand ce n'est pas Tokyo, c'est de nouveau l'Europe. Quand ce n'est plus l'Europe, c'est de nouveau New York. Et donc, on n'a rien en main aujourd'hui. La finance n'étant pas une science exacte, et ben, ça reste une partie de hasard, une partie de réflexion. Une partie d'analyse technique, une partie de fondamentaux, et puis une partie de politique aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de politique, qui fait que ça reste beaucoup là. Hop, pile ça monte, face ça baisse. Voilà. Le marché, s'il n'y avait pas de hasard, le marché n'existerait plus, tout simplement. Et on a eu plusieurs cas dans l'histoire de la finance, où des gens sont arrivés avec des théories en disant « j'ai trouvé la formule magique ». En général, ça fait 2-3 ans. Effectivement, ça va super bien, d'un coup, pam, pam. Ah, j'avais oublié un paramètre. Et voilà. Et le paramètre, c'est le facteur humain. C'est juste le facteur humain. Après, vous pouvez mettre tous les mathématiques que vous voulez en place, toutes les formules mathématiques, tous les algorithmes mathématiques ensemble. Jamais vous arriverez à simuler la réaction de l'être humain dans une situation donnée.
Bon, ici dans la salle aujourd'hui, il y a 6 personnes.
On est 8 normalement.
8. C'est 8 hommes. Est-ce qu'il y a des femmes dans le trading?
Oui, il y en a, bien sûr, il y en a. Évidemment, moins. Enfin, évidemment. Je ne vais pas dire évidemment, je vais me prendre des claques, mais non, il y en a, bien sûr. C'est un milieu qui est très macho. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est dur, c'est violent, ça crie, ça hurle, ça s'insulte. Il faut accepter le jeu. Et des fois, ben voilà, il y en a qui. Je pense que le côté féminin est moins attiré par. 3 traders qui s'insultent à travers une salle de trading, ils ne trouvent pas ça très intéressant, alors que nous, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, en général, celles qui vivent là-dedans, elles sont très très bonnes. Je veux dire, en termes de performance, en termes de caractère, elles correspondent à ton trait de caractère d'un trader.
Vous savez, vous, pourquoi il n'y a pas plus de femmes?
C'est peut-être pas dans la mentalité féminine d'acheter et de vendre à longueur de journée, parce que la finalité, finalement, n'est pas extraordinaire, quand même. Je pense que peut-être les femmes ont un ego placé. Ailleurs que dans le fait de gagner 500 et d'en perdre 200 et d'en gagner 300 et d'en gagner 50.
Non, puis c'est vrai que, bon, après, il y a la mentalité des salles en général. Franchement, par moments, moi, j'ai vécu des trucs, c'est lourdingue, quoi, voilà. Donc voilà, moi, je passe au début beaucoup de temps sur les sites internet pour voir un peu les nouvelles, un peu ce qu'on dit. Puis après, il y a une chose que je regarde beaucoup. C'est un site qui s'appelle Kaggle, et en fait, c'est que des dessins de presse. Ça, et les guignols de l'info. Après, vous avez une bonne vision un peu du monde en général, parce qu'on n'est pas toujours déconnecté de la réalité du reste du monde. Quoi. Tout le marché, c'est la présentation finale de tout ce qui se passe dans le monde. Alors oui, il y a l'aspect financier, mais effectivement, si vous avez des énormes crises politiques ou sociales, dans le monde entier, ça pose aussi un problème du marché, donc ça augmente un certain stress. Et donc nous, on est tributaires de tout ça, quoi, voilà.
Vous, vous rêviez d'être trader?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas une seconde. Non, 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 absolument pas. Non,
C'est pas tout petit que vous étiez fasciné par l'argent et par les échanges.
Ah non, mais je suis toujours pas fasciné par l'argent. L'argent, c'est un mal nécessaire. On va dire. Moi, j'en ai besoin pour vivre. Moi, je voulais être pilote d'hélicoptère. L'hélicoptère, moi, je voulais voler pour aller sauver des vies, machin. Ça n'a juste rien à voir avec ce que je fais ici. Ça, c'est clair et net. Et quand j'ai commencé mon apprentissage à l'UBS à l'âge de 16 ans, j'avais qu'une idée, c'était voler. Après la fin de mon apprentissage, je travaillais à 80% et je faisais 80% banque et 20% j'allais voler. Bref, après, il n'y avait pas de travail, je ne pouvais pas concrétiser réellement dans la réalité. Et puis, je me suis retrouvé dans une salle de trading et puis j'ai aimé ça. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les gens, j'ai aimé l'excitation du métier, j'ai aimé le côté où il n'y a pas de routine.
Est-ce qu'il y a des points de comparaison entre le trading et puis voler en hélicoptère ?
Le seul point de comparaison que j'ai pu retrouver au travers des années, c'est que quand je traite et puis que je suis à fond dans le marché, j'oublie tout. Et quand je vole, quand je décolle, pareil, j'oublie tout. Donc, tout ce que vous avez comme souci, comme tracas de la vie de tous les jours, ça s'envole à ce moment-là.
Donc, programme d'achat à nouveau chez Trad.
Ils achètent quoi ?
Ils achètent tout le temps. Après, ce qu'il y a de plus fait sur les valeurs françaises, c'est les non-résidents qui sont en train d'acheter. Non, ben, je te donne l'info.
Ouais, merci. Voilà, c'est des informations qui circulent dans le marché. Comme quoi, il y a des gestions en France qui sont très actives à l'achat sur certaines valeurs. Simplement, rumeurs, on s'entend. Moi, j'ai eu la chance de connaître la corbeille avant que les bourses électroniques commencent. J'ai vécu toute cette période-là et j'étais à la corbeille. J'ai vu les gars crier et puis arriver quasiment aux mains parce qu'ils voulaient traiter un prix à la corbeille. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, boum, tout est informatisé. Et vous rentrez dans des salles comme ça, où il n'y a pas un bruit. Et tout le monde fait, vous entendez clic, 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 clic sur les écrans parce que les gens tapent sur les écrans. Mais vous avez beaucoup moins de côté cris, hurlements, etc.
Et qu'est-ce que ça apportait, ça ?
L'impression que c'était vivant. L'impression qu'il y avait réellement un échange. Alors, il y a plein de défauts à côté. Moi, je ne suis pas nostalgique forcément de cette période-là, mais je veux dire, vous avez vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus aseptisé et en même temps beaucoup plus violent. Parce qu'il n'y a plus de cris, mais par contre, les volumes et les répercussions sont beaucoup plus importantes. Et quand tout d'un coup, vous avez un programme de vente, parce que ça panique, qui débarque sur le système, c'est juste impressionnant. Si vous êtes pris là-dedans, c'est la vague qui vous arrive dessus, quoi. Moi, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai appris en prenant des claques, j'ai appris en essayant, j'ai appris en lisant des bouquins tout seul dans mon coin. Et puis, à la fin, ça marchait pas trop mal, et puis je m'en sors pas trop mal. Et puis, en face de moi, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient des gars ultra compétents, avec des diplômes jusque-là. Et quand il fallait agir dans le marché et prendre une décision, il faut la prendre maintenant. Et pas dans 2 heures, quand on aura tout revérifié 2 fois, 3 fois mathématiquement avant de prendre la décision. Parce que l'aberration, où l'opportunité, elle est passée. Alors que quand vous avez moins d'études derrière, peut-être, vous avez tendance à agir plus sur votre instinct. Et puis finalement, c'est pas plus mal.
Vous avez déjà eu des sueurs froides ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ah oui, oui, plein. Jeune voix 98, crise russe ou crise asiatique, je sais plus laquelle des deux c'était. J'avais des positions en Suisserie. J'avais quelque chose comme, 200 000 francs suisses en position, donc pas quelque chose d'énorme. Et le marché ouvre vraiment méthode crash et le titre perd 35% à l'ouverture. Voilà. 35%, ça veut dire que dans la minute de l'ouverture, vous perdez 80 000 francs. Comme ça. Là, c'est la fin du monde, vous ne pouvez rien faire. J'ai eu une autre fois où j'ai perdu à l'ouverture à Wall Street, j'avais 17 millions qui étaient engagés sur les actions américaines et j'ai perdu à l'ouverture 700 000 dollars. Et ce qui m'a le plus frappé à cette époque, c'est ce qui m'a le plus marqué parce qu'à l'époque, je gagnais 70 000 francs par année. C'était mon salaire. Et là, j'avais perdu 10 ans de salaire en 3 minutes.
Alors dites-moi juste ce que vous allez faire, après je vous laisse travailler.
La Tribune de Genève m'a engagé comme pigiste et j'ai écrit une chronique mensuelle, hebdomadaire sur les marchés boursiers, une fois par semaine, qui paraît le mercredi matin dans le journal papier donc de la Tribune. Puis je dois rendre mon papier avant midi le mardi, sauf que c'est 3h moins 10, donc voilà.
Vous l'avez intitulé « Je m'indigne ».
Oui, c'est du second degré.
Bon, alors je vais vous laisser écrire, puis je vous retrouve tout à l'heure.
Ouais, pas de soucis.
Alors là, il est 15h30. Et New York va ouvrir. Voilà, là, c'est en train d'ouvrir. Donc, il faut regarder ces deux-là, le Dow Jones et S&P 500. Et on voit tout de suite les prix ici. Là, on a la courbe instantanée du S&P qui baisse. Et puis nous, les Européens, dès que New York sera complètement ouvert, on va se coller à eux et puis on va faire comme eux. Donc c'est-à-dire, dès que le S&P va rebondir de 2 points, on va courir derrière. Dès qu'il va baisser de 3, on va suivre derrière jusqu'à la clôture, quand nous, on ferme. Et puis après, ben, les Américains sont laissés à eux-mêmes. Et ben, nous, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui se passera ce soir pour savoir comment, à quelle sauce on va être mangé demain.
Faire gagner de l'argent à des gens qu'on a déjà, puisqu'ils peuvent vous en donner pour que vous le fassiez travailler, sans rien faire.
Ils me le donnent pas.
Puisqu'ils vous l'ont confié, ils ne font rien, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils en ont. Il n'y a pas quelque chose d'un peu immoral là derrière?
Il y a des gens qui ont gagné de l'argent dans leur vie parce qu'ils ont créé une entreprise, que leur entreprise est devenue prospère, qu'ils ont gagné de l'argent, puis qu'aujourd'hui ils ont des millions sur leur compte et qui veulent les faire fructifier. Ces gens-là devraient faire quoi? Ils devraient dire non, j'en ai trop, donc je me contente de garder le cash que j'ai de dépenser. Pourquoi? Le but aussi, c'est de réinjecter cet argent dans l'économie. Alors, cette personne-là va les mettre en bourse. Quelque part, il va donner de la liquidité au marché boursier qui vont permettre à d'autres entreprises de se financer. Et puis lui, peut-être, de gagner de l'argent là-dessus. Ou d'en perdre. Mais il prend un risque quand même. Il y a des gens qui viennent dedans puis qui perdent la moitié de leur fortune parce qu'ils ont voulu en gagner. C'est un risque. Donc, c'est à double tranchant. Faire de l'argent avec l'argent, ok, c'est... Si c'était aussi facile que ça, tout le monde le ferait. Donc aussi, quand j'entends les discours de dire « oui, il y a qu'à », ouais, il y a qu'à, bon, vas-y, tiens, bonne chance. Alors, c'est pas facile, je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile. Alors, est-ce que maintenant, il faudrait... Je veux pas rentrer dans des théories ultra-gauchistes en disant « il faut redistribuer », non. J'ai l'impression que s'il y a une chose à faire dans la régulation, quand on en parle beaucoup ces temps, c'est de revenir « back to the basics », revenir à la base, et de se dire « ok, la bourse, c'est quoi ?» C'est acheter une action parce qu'on pense que la société qui est derrière fait un bon boulot et que dans les semaines qui vont venir, ça va se ressentir et essayer de revendre un peu plus cher plus tard. C'est tout. C'est pas vendre une société qui fait un boulot pourri et la vendre à découvert alors qu'on l'a même pas encore pour enfoncer le clou encore sur une société qui est déjà dans la difficulté pour aller se dire, quand elle baissera encore plus, je pourrais la racheter moins cher avec des titres que je n'ai pas. Et puis voilà, le trader qui est dans une banque, il a des impératifs, on lui dit, écoute, t'as 10 millions, à la fin de l'année, j'en veux 15, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Donc lui, il a un contrat à remplir, on lui demande de faire. J'ai un collègue qui dit ça très justement l'autre jour, c'est un peu comme un soldat. Un soldat, vous lui dites, tu montes au front et tu tires sur l'ennemi, il monte au front et tire sur l'ennemi. Si c'est pas lui qui le fait, c'est un autre qui viendra derrière pour le faire. Voilà, moi, ce que j'essaie de faire dans des périodes pareilles, c'est de choisir un titre. Puis essayer de trouver des niveaux d'entrée et de sortie pour essayer de gagner quelque chose. Je couperai si je perds. Je vous interdirai de placer ça à l'antenne.
Vous venez de quel genre de famille ?
Moi, je viens d'une famille d'indépendants. Mon père était indépendant, ma mère était indépendante.
De la finance aussi ?
Non, pas du tout. Non. Mon père, c'était dans l'automobile et ma mère dans la coiffure, donc rien à voir. Mais j'ai vu aussi qu'en étant indépendant, il y avait des jours faciles et des jours plus difficiles. Et je l'ai vu à table le soir. Alors, des fois, c'était moins drôle parce que c'était plus tendu, parce que l'argent y rentrait moins. Mais bon, en vivant ça en fond, je me suis dit, moi, jamais je serai indépendant. Moi, je veux avoir un salaire, un job, que ça tombe tous les mois, et puis qu'on ne m'embête pas, etc. Et puis, les années passant, je me suis dit, mais j'ai besoin de faire autre chose, d'être indépendant. Voilà, ça m'est revenu dans la figure, parce que ça m'est revenu surtout dans le sens de la création. Je me suis rendu compte un matin, il y a bien des années de ça, qu'on ne crée rien, quoi. Mais juste rien. On brasse de l'air, on brasse de l'argent, mais on crée rien. À la fin de la journée,
Peut-être que j'aurais fait gagner de l'argent à un client, mais j'aurais rien créé. J'aurais pas un meuble qui aurait été fini, peint et au fond de la pièce. J'aurais pas un tableau qui sera fait contre le mur. On a créé de l'argent. Ouais, ok. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, j'ai eu besoin de me dire peut-être maintenant, il faut que je puisse aller dans une direction où je vais créer quelque chose. Alors, ça passe par créer un blog, ça passe par créer mon propre fond, et ça passera peut-être à la fin par la satisfaction de me dire ok, bah, j'aurais peut-être créé quelque chose. Voilà. Voilà, ben là, typiquement, on parlait, mais là, j'ai acheté à 46, revendu à 57, voilà. J'ai acheté bas et j'ai revendu haut.
Donc voilà. Là, vous avez gagné combien ?
Là, j'ai gagné 200 euros. Pas de quoi la ramener, mais je veux dire...
Oh ben, en 5 minutes, c'est pas mal.
Ah oui, non, à 200 euros de l'heure, c'est pas mal. Si c'était toutes les heures comme ça serait pas mal, mais... Voilà.
Est-ce que je peux encore faire une photo de vous ?
Bien sûr, oui.
Puisqu'on est encore dans la salle des marchés.
Pas de problème. Je veux pas trop sourire, parce qu'après, si je souris trop, on va me dire que... Ah là, je suis un requin. Je veux ça.
C'est là ?
Ouais.
D'accord, pourquoi c'est là ?
Pourquoi ça c'est là ? Parce que moi j'ai l'habitude de prendre une décision rapidement et puis elle me paraît pas mal, j'aime bien. Ça fait pas trop sourire forcé, j'ai l'air à peu près naturel, voilà.
Radio Suisse Romande la première, zone franche.
Boum, boum, fais attention, ça va sauter. Boum, boum, si tu continues à me chercher des poux dans les cheveux, de poussière dans les yeux. Jamais parler comme ça, boum, boum, de craquer, je suis à deux doigts sur la mise à feu, je compte sur toi, deux, un, zéro. Je crois qu'il suffit d'une étincelle, toute petite étincelle, pour nous faire sauter de joie et dire n'importe quoi, n'importe quoi. Oh, boum, boum, baby, n'aie pas peur, boum, boum, on sera mieux là-haut, mon cœur, le doigt sur la mise à feu, je compte sur toi deux.
Presque fini, c'est ce qui s'appelle une dégringolade. Boum, boum, Jérôme Van de Hol sur la première. Si vous désirez voir le portrait de notre invité du jour, de notre témoin du jour, Thomas Veillet, eh bien rendez-vous sur notre site zonefranche.rsr.ch. Et nous poursuivons la discussion, la réflexion jusqu'à 11h à propos de trading, à propos de finance, à propos d'économie, avec Paul Dembinski, que j'ai le plaisir d'accueillir. Vous êtes en duplex de Genève. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes économiste, vous êtes chercheur, professeur à l'Université de Fribourg, également directeur de l'Observatoire de la Finance, que vous avez fondé en 1996 à Genève. Et vous êtes l'auteur notamment de « Finances servantes aux finances trompeuses » paru en 2008 aux éditions des Clés de Brouwer. Spécialiste des questions éthiques liées à la finance, donc c'est intéressant de vous entendre sur l'éthique par rapport au reportage que nous venons de diffuser. Peut-être un mot sur ce métier de trader qui semble-t-il, en tout cas en entendant Thomas Veillet, a énormément changé en assez peu de temps finalement.
Oui, je crois que votre reportage et la silhouette de M. Veillet le montrent très bien. C'est une activité qui a changé. La plateforme technologique, en quelque sorte, de cette activité a fondamentalement changé. a fondamentalement changé durant les 20 dernières années. Et aussi le fait que, aujourd'hui, beaucoup de traders, comme votre invité, travaillent à distance plutôt que d'être colocalisés avec ceux qui font le même métier et qui donnent une dynamique de groupe à l'ensemble de l'opération.
Oui, c'est ça. Il le disait lui-même. Il avait travaillé à la corbeille où les gens s'envoyaient des noms d'oiseaux, où il y avait des cris, où finalement le corps explosait un peu en fonction de la baisse ou de la hausse des marchés, et que là il y a une chose un peu aseptisée, tranquille, silencieuse, plus calme mais plus violente, disait-il.
Voilà, je crois que ça c'est un paradoxe fondamental, mais peut-être encore une autre marque, c'est que, en fait, M. Veillet est trader seulement dans une très faible partie de sa vie, en quelque sorte, il l'a décrit, comment cette activité de trading s'insère dans un ensemble d'intérêts, d'activités et d'ambitions. Les traders que l'on voit autour de la corbeille, ou qu'on voyait autour de la corbeille, faisaient ça, on pourrait dire, la longueur de journée, donc je crois que là il y a aussi une différence. Aujourd'hui, le trading peut être fractionné on fait ça pendant 2 heures, on fait ça pendant 3 heures, on fait ça pendant 6 heures. Un jour, on ne fait pas l'autre jour. Avant, le trader était un professionnel, point à la ligne.
Il y a aussi, voilà, vous parlez de professionnalisation, parlons de déprofessionnalisation, puisqu'il y a la possibilité pour tout un chacun, vous et moi, avec une bonne connexion, avec quelques connaissances, de faire du trading. Et cette déprofessionnalisation, j'ai envie de dire, a aussi modifié les mouvements du marché.
Ah oui, fondamentalement, ce qui s'est passé notamment aux États-Unis avec la mise à disposition des plateformes de trading à peu près à n'importe qui, bien sûr, avec des délais de retard, parce que dans le trading, dans le marché, tout ce qui compte, c'est avec combien de retard je reçois l'information. Et bien sûr, plus je veux avoir l'information immédiate, plus cher je dois payer la console qui me connecte, ou le réseau qui me connecte au réseau. Alors pour rentrer dans le cercle, on pourrait dire dans le premier cercle, on compte en termes de nanosecondes le temps d'accès, et c'est ça qui fait la différence et qui permet aussi aux très grands joueurs de s'en sortir avec des sommes beaucoup plus confortables et avec des résultats beaucoup plus confortables qui ceux qui sont quelque part dans la périphérie. Donc la déprofessionnalisation, mais c'est aussi en quelque sorte, on a fait remonter dans le marché quelque chose qu'on pourrait appeler, avec des guillemets bien sûr, de la chair à canon. C'est-à-dire des gens qui structurellement auront moins d'informations que le marché lui-même. Et ceci permet au premier cercle d'être un peu plus à l'aise. Et on l'a vu avec un certain nombre de produits qui ont été distribués vers ceux qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils achetaient.
Et ça, c'est devenu de plus en plus courant d'être totalement inconscient, entre guillemets peut-être, de ce qu'on achète. Vous parlez de nanosecondes, on peut bien imaginer qu'en nanosecondes, c'est très compliqué de savoir au fond ce qu'on fait réellement.
Ben, c'est pour ça que quand on parle de nanosecondes, il n'y a que les big boys, c'est-à-dire ceux qui ont été capables, votre invité parlait, n'est-ce pas, de l'avalanche d'un programme de vente. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des très grands opérateurs qui sont capables de programmer des opérations boursières et n'est-ce pas, des réactions automatisées à un certain nombre de signaux qui viennent du marché et qui viennent d'autres paramètres et qui déclenchent alors des mouvements de fond que l'esprit humain ne pourrait pas suivre en temps réel. Ce sont des automatismes. Et c'est pour ça qu'il y a eu, il y a 2 ans, n'est-ce pas, à un moment donné, il y avait une dégringolade absolument faramineuse d'un des indices à New York. Pendant, ça a duré 2 minutes. Le monde a cru que le monde allait s'effondrer. Eh ben non, il y avait probablement un paramétrage inadéquat d'un certain nombre de programmes de trading.
Mm-hmm. Donc oui, alors les programmes sont paramétrés selon des logiques que l'on peut sans doute expliquer, mais il y a aussi une forme de coup de poker.
Bien sûr, jeu de
hasard, le disait Thomas Veillet. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il a même prononcé le mot casino. Cette notion, cette dimension existe de plus en plus, vous diriez ?
Moi, j'ai l'impression qu'elle existe de plus en plus, n'est-ce pas ? Au fur et à mesure que s'élargit le cercle de ceux qui interviennent directement ou indirectement, enfin en première ligne ou en deuxième ligne sur le marché, augmente aussi le côté émotionnel, le côté irrationnel. J'étais beaucoup frappé par votre invité qui parlait « je regarde les news, etc. » Ensuite, je regarde les guignols de l'info et les dessins de presse. Pourquoi est-ce qu'il les regarde ? Parce que c'est du para-rationnel et c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde, en quelque sorte, la quintessence qu'il en tire, peut-être a été saisie par les dessinateurs, peut-être elle a été mieux saisie par les auteurs de Guignol qu'elle ne transparaît à travers des courbes très sophistiquées. Donc d'un côté, il y a la rationalité, de l'autre côté, il y a une émotivité, et c'est quelque part entre ces deux que tous les jours, ces deux s'entrechoquent en quelque sorte, et font que les prix montent ou baissent de manière plus ou moins accentuée.
Mmh. On verra justement tout à l'heure, dans quelques instants, avec Tammy Cabbage, qui lui a étudié la psychologie des grands traders, un peu comment ces choses s'articulent dans la tête mystérieuse.
Couchez-vous, hein, allongez-vous.
Oui, on va faire s'allonger les traders. Paul Dembinski, on parle beaucoup aussi de financiarisation de l'économie. Alors, est-ce que vous pourriez de façon simple et facile à appréhender nous dire ou nous redire de quoi il s'agit ?
Alors, il y a plusieurs points d'entrée, mais je vais en prendre deux. Le premier est au niveau macroéconomique. La spéculation, dans sa définition traditionnelle, on pourrait dire, est le fait d'acheter quelque chose et d'attendre, de miser sur une variation de prix sur laquelle moi, je n'ai pas d'emprise. Donc j'achète quelque chose et j'attends que le prix évolue par soi-même. Ce qui est en train de se passer de manière évidente, et là, les trois dernières années sont des exemples, on pourrait dire, de manuels pour les générations qui viennent, ce sont les marchés qui imposent des changements de comportement, n'est-ce pas ? Donc c'est pas que un prix évolue et moi, j'accompagne à la montée ou la descente, le mouvement du prix. Non, moi, en tant que grand joueur, j'influence le prix. Donc on est de la spéculation à la manipulation, la passerelle est immédiate, et aujourd'hui on est dans une manipulation, non pas du prix, mais par le biais du réel, par le biais du prix, du réel. Et l'impact, donc la finance, devient on pourrait dire l'aiguillon de l'activité réelle. Ça, c'est au niveau macro. Maintenant, si on regarde exactement la même chose au niveau microéconomique, au niveau des entreprises cotées en bourse, c'est exactement la même chose. Les investisseurs, les actionnaires, il y a encore 20 ans, 25 ou 30 ans, achetaient une action lambda parce que cette entreprise allait faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, par le biais des prix, et le management a des yeux rivés sur le cours de l'action, on a l'impression que c'est le cours de l'action qui dicte le comportement du management, qui doit produire une bonne nouvelle. Donc il doit produire une bonne nouvelle finalement, si c'est rationnel ou c'est pas rationnel, c'est couper ici ou couper là-bas, augmenter ici ou augmenter là-bas, pour que l'émotionnalité, le guignol de l'info le reprenne et que le cours remonte quelque part. C'est la financiarisation, un aspect de la financiarisation. Le marché financier ne reflète pas, mais il construit.
Back to the basics, disait notre témoin. Un retour aux fondamentaux, c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Parier sur des sociétés parce qu'on croit en ce qu'elles font et ce qu'elles seront capables de faire, et les financer, alors qu'aujourd'hui, on a perdu ce lien, finalement, avec la réalité.
Je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on est progressivement contraint à le retrouver de toutes parts. Et aujourd'hui, vous l'avez très bien montré, plus personne ne comprend vraiment à quoi ça tient, donc on s'en sort ou on s'en sort pas, mais on sait pas très bien ni pourquoi on perd, ni pourquoi on gagne. Les entreprises ne savent pas pourquoi elles sont sanctionnées ou pourquoi elles sont portées au nu, et je crois que il y a tout ça nous a plongé, et on est tous acteurs dans cette histoire, amené dans un contexte où l'horizon temporel est devenu celui au mieux de la journée et au pire de la nanoseconde, et avec ça on ne peut rien construire. Donc on est en train progressivement de détricoter un tissu économique d'abord, un tissu social et je dirais un tissu éthique qu'on a mis des siècles, ou en tout cas des décennies à construire. Et à un moment donné, on se trouvera, à force de détricoter un tout petit peu nu, et on va voir que pour se couvrir, il faut donner de la temporalité, il faut donner de l'horizon temporel à la finance, à la production, aux relations humaines. Sans cela, dans l'éphémère, rien ne peut en sortir.
Pourquoi vous dites, Paul Dembinski, que nous sommes tous un peu responsables de cet état de fait ?
Nous sommes tous responsables, bon, en Suisse c'est pas tant, nous sommes tous quelque part des acteurs des caisses de pension. Mmh. Nous sommes tous quelque part dans l'illusion que nous allons vivre 80 ans et que pendant 25 ans, quelqu'un va payer, alors que selon les systèmes, n'est-ce pas, de retraite, mais tout l'Occident a été bercé et berné, je dirais, par cette idée que, à partir d'une certaine d'âge, soit de 65, pendant 20, 25, 30, si quelqu'un a de la chance, peut-être même 40, quelqu'un va le sponsoriser avec un niveau de vie qui est à peu près, et ce quelqu'un, c'est une institution, c'est pas les enfants, c'est pas les frères et sœurs, c'est pas les voisins qui ont un visage, qui ont une voix des fois rauque, et des fois aiguë, et des fois très plaisante, et puis peuvent rappeler un peu à l'ordre de temps en temps. Non, là, on a affaire à une abstraction, une institution, une promesse. Et on arrive au bout de la promesse. N'oublions pas qu'une des plus belles institutions, définitions de la finance, c'est dire que c'est le commerce des promesses. Et dans ce commerce de promesses, on voit que certaines promesses sont un peu creuses. Et on va, je pense, arriver à découvrir, comme on a cru aux promesses pendant 30 ans, ben, on va perdre de la confiance dans ces promesses. C'est un processus qui, malheureusement, me semble-t-il, est en marche.
Alors, vous restez avec nous, Paul Dembinski, on va s'allonger sur le divan tout à l'heure, comme on le disait avec Tammy Cabbage, et ce sera juste après, Adèle.
D'accord.
Your love anymore. I'm leaving you for.
Rumor has it, c'était Adèle sur la première et nous sommes à 10h44 en direct avec Tammy Cabage au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'économie et de gestion. Vous êtes président de tkltrading.com, une société de coaching de traders. Vous donnez d'ailleurs ce matin, et merci de vous d'être sorti quelques instants de la salle, vous donnez un séminaire pour les traders. C'est un monde que vous côtoyez au quotidien. Vous avez écrit « La psychologie des grands traders » par aux éditions Erol, un livre qui nous explique ce qui se passe dans la tête d'un trader. Il se passe donc des choses surprenantes, Tammy Cabage.
Il se passe énormément de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens pensent finalement que les traders sont des personnes surhumaines, hein, des personnes qui justement maîtrisent ce qu'elles font. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. C'est-à-dire que la plupart des traders sont dominés par leurs émotions, leurs connaissances, leurs croyances, et donc prennent des décisions erronées. Cette dimension psychologique, elle est importante, elle a souvent été négligée, d'ailleurs on l'a vu récemment avec l'UBS, on l'a vu également avec le cas Jérôme Kerviel, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les banques s'intéressent de plus en plus à cette dimension psychologique et savent que les traders doivent apprendre à mieux gérer leurs émotions, car nous ne sommes pas naturellement préparés à affronter les marchés financiers.
Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de stress, parce qu'il y a trop d'inconnus, il y a trop de rapidité, comme on le disait tout à l'heure avec Paul Dembinski ?
Non seulement il y a beaucoup de rapidité, mais il faut savoir que nous sommes dominés par des biais psychologiques. C'est-à-dire que les individus, par exemple, lorsqu'ils veulent prendre une décision d'acheter, ils ne vont pas se baser sur leur raison, mais sur ce que dit l'analyste, un analyste, un expert. Ils vont également se baser sur ce que disent les journaux. Ils vont également, par exemple, voir une action monter. Ils vont se dire, tiens, il faut acheter. Et donc, effectivement, le fait que les marchés aujourd'hui sont beaucoup plus rapides, que l'information est partout, fait qu'on va prendre des décisions qui ne sont pas des décisions rationnelles, calculées, réfléchies. Et donc, on va souvent prendre des décisions erroné. Et ça a été mis en évidence par de nombreuses expériences réalisées en laboratoire. C'est-à-dire qu'on a constaté que les traders ne prenaient pas de bonnes décisions, notamment, ils étaient suractifs. C'est-à-dire que lorsqu'un trader perd, au lieu de couper sa perte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre de plus en plus de positions, se mettre à agir de manière frénétique, jusqu'à se retrouver à la tête d'une perte colossale. Un individu rationnel ne ferait pas ça. Pourtant, 90% des individus commettent ce type d'erreur. Et plusieurs expériences le montrent. 10%, c'est-à-dire une minorité, arrivent à éviter ce type de travers. Et pourquoi ? Parce que ces personnes, justement, ont travaillé sur ces erreurs, ont réussi à les surmonter et arriver, justement, à être dans cet état de phase avec les marchés. C'est un travail de longue haleine qui consiste à critiquer ses positions, à analyser ses positions en temps réel et justement à chercher justement à prendre les meilleures décisions possibles. Et seule une minorité y parvient.
Paul Dembinski, on vous a entendu réagir.
Oui, parce que notre interlocuteur est en train de prendre une position quand même très forte, qui est une bonne partie de ce qu'on appelle la finance behaviorale, comportementale, qui dit il y a une vérité objective, froide, raisonnable, et puis il y a l'émotion qui, moi, m'empêche d'y arriver. Mais il y a aussi une autre manière de regarder. Cette autre manière de regarder, c'est que cette raison que l'on suppose exister, cette réalité froide et rationnelle qui suppose que l'on suppose dans l'autre d'approche comme étant le point de référence ultime et unique, mais que c'est un leurre, tout simplement que c'est un leurre, et que les biais dont on a parlé, etc. Expliquer à un sportif que quand il fait un premier tranche de parcours à ski en perdant une demi-seconde ou une dixième de seconde, qu'ensuite il faut qu'il ralentisse parce que en arrivant au bout, en mettant la quatrième vitesse ou la cinquième vitesse, il risque de se casser la jambe ou il risque de faire ceci. C'est exactement l'inverse de la psychologie. Alors, est-ce que c'est l'homme qui a le dessus ou est-ce que c'est la machine mathématique qui a le dessus? Et là, il y a un enjeu anthropologique fondamental. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces percées où on mélange l'émotion à la rationalité, mais il faut les mélanger, il ne faut pas dire qu'il y a une rationalité qui sort d'un calcul mathématique, c'est la vérité, et il y a ensuite le crétin de l'homme qui doit se faire une psychanalyse pour que dans cette psychanalyse, il cherche le marché en lui. comme il cherche comme il se cherche selon M. Freud.
Tammy Cabbage.
À mon avis, c'est une aberration, là.
Tammy Cabbage.
Oui. Alors, l'idée, c'est que, encore une fois, moi je parle, et je suis d'accord un petit peu avec ce que vient d'avancer M. Demminski. Il faut savoir également que moi je parle du trader qui prend une décision, c'est-à-dire une décision censée être rationnelle, censée se baser sur, par exemple, des probabilités, des récurrences. Mais un trader, justement, pourquoi deux traders vont-ils effectivement prendre des décisions différentes alors qu'ils ont le même système, etc. Et c'est là où la psychologie va intervenir. Alors, moi, je ne considère pas qu'il existe effectivement une vérité sur les marchés. Hein. Je ne considère pas que les marchés sont prévisibles à 100%. Mais il y existe des récurrences sur les marchés. Il existe effectivement des situations où, effectivement, bah, le marché est prévisible. Pourtant, on s'aperçoit que dans ces situations, la plupart des individus vont commettre les mêmes erreurs et qu'une minorité, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de parler de morale ou de justifier hein, les décisions prises par les traders, mais j'essaie juste d'expliquer pourquoi certains traders sont-ils meilleurs que d'autres. Et c'est là où on en arrive justement au fait que bah, les meilleurs traders, hein, selon mes expériences, recherches, etc., eh bien, les meilleurs traders sont les personnes qui ont réussi à maîtriser leurs émotions en situation, qui appliquent un système en continu. Et là, bien sûr, M. Demminski parlait du skieur, je vais prendre le joueur de tennis. Hein, Federer. Pourquoi Federer est-il bon? Non seulement il a effectivement des qualités certainement innées, mais il y a également un travail psychologique bien important. Sûr. Federer, bien lorsqu'il joue au tennis, il est concentré sur le processus, bien il sûr. N'est pas désarçonné après une perte exact. Ou un gain, ouais. Et il va justement chercher hein, à jouer son jeu de manière régulière. Et un bon trader, c'est ce qu'il fait. Il ne va absolument. Pas effectivement être désarçonné après une perte et il ne va pas être devenir euphorique après un gain. Un mauvais trader, souvent, un mauvais trader, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il perd, au lieu d'arrêter, le cas de Jérôme Kerviel, au lieu d'arrêter de se dire « stop, j'ai fait une bêtise, je dois couper ma position », non, il s'entête et se met à prendre de plus en plus de risques. Un bon trader, et grosso modo les statistiques le montrent, on a environ 10% de bons traders, et bien un bon trader fait l'inverse. Lorsqu'il perd, il coupe ses positions, il sort, et lorsqu'il gagne, eh bien, il cherche à tirer le maximum de la position. Ouais, et c'est ce qui les différencie du reste. Lorsqu'on analyse pas mal de traders, on a effectué d'ailleurs une recherche sur un concours organisé par zonebourse.com, sur les 600 traders, on a constaté que 90% commettaient les mêmes erreurs. Et que les 10% des meilleurs traders, bah justement, c'était les personnes qui ne commettaient pas ces erreurs, notamment bah, celles qui consistent à prendre de plus en plus de pertes en position perdante, et celle à sortir rapidement d'une position gagnante, donc ce biais psychologique développé justement par la science comportementale.
Alors un mot à Paul Demminski, et puis ensuite on viendra sur le fait qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes, et Paul Demminski.
Non, il y a 10% de traders qui sont bons parce qu'il y avait 90% qui sont mauvais. Si les 100% étaient bons, du coup, plus personne ne serait bon. Et la rationalité du marché, elle aurait été ailleurs.
Pourquoi ces 10% sont-ils bons? Et c'est la raison.
Non, mais c'est
pour ça que j'insiste sur cette dimension psychologique. Ils ont réussi. Et pourquoi sont-ils bons sur la durée? 15 ans, 20 ans, parce que... Vous me parliez de hasard et justement de prédire les marchés. Ces personnes sont excellentes sur une période longue, 15 ans, 20 ans.
Mais comme Federer est excellent sur la terre battue et sur les gazons. Mais encore une fois, le seul point que je suis 80% d'accord avec ce que vous dites, sauf qu'il y a une rationalité de marché qui est une rationalité pure vers laquelle il faut tendre. À mon avis, c'est un leurre. Il y a des comportements de groupe et des comportements dominants. Et comme dans toute activité, il y a ceux qui ont maîtrisé ces comportements et ne font pas comme la foule, peuvent s'en sortir mieux. C'est le cas des entrepreneurs, c'est le cas des grands chefs, c'est le cas des grands explorateurs. C'est une question de caractère. Et ça, depuis Aristote ou même avant, on le sait. Il y a un travail sur les caractères, en quelque sorte, sur la maîtrise des émotions, sur la volonté. C'est clair. Je vous rejoins à 100%. Le seul point de désaccord, c'est de dire qu'il y a une rationalité quelque part de l'autre côté de la fenêtre, et vers cette, on va découvrir cette rationalité. Pour moi, ça, c'est difficilement acceptable. Enfin, moi, je le comprends pas.
On vous a mis d'accord, en tout cas, sur le fait qu'il y a des bons et des moins bons traders. Tammy Cabbage, un mot peut-être, parce que c'est intéressant, ça, de voir que c'est un monde d'hommes. Alors, on l'entendait, Thomas Veillet donner ses explications sur le fait qu'il y a peu de femmes. Il disait aussi, quand il y en a, elles sont excellentes. Vous avez une interprétation de cette disparité au niveau du genre dans ce métier de trader?
Alors oui, alors il y a pas mal de choses intéressantes sur le sujet. Donc très rapidement, on a effectué une recherche sur un concours organisé par un site français, zonebourse.com. À ce concours ont participé 600 personnes. C'est un concours gratuit, ouvert à tout le monde. Sur les 600 personnes, on comptait 60 femmes. Donc un concours ouvert, aucune discrimination à l'entrée, 60 femmes. Et puis, on a effectivement essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi 60, c'est-à-dire 10% hein, de personnes de sexe féminin qui ont accepté de se joindre à ce concours. Et donc, on a constaté qu'il y avait effectivement une auto-sélection, c'est-à-dire que beaucoup de femmes refusaient d'aller sur les marchés financiers parce qu'elles estimaient qu'elles n'avaient pas les compétences nécessaires. Et également, elles considéraient que c'était trop risqué pour elles. Donc, il y a une aversion au risque qui est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes, et ça se retrouve également au niveau des études, etc. Des études choisies, hein. Par exemple, on va trouver beaucoup plus d'hommes dans certains secteurs. Et il y a également un dernier point, c'est que bon, les femmes finalement sont moins intéressées par l'argent, je dirais, que les hommes. Mais il y a également un autre point qui a été soulevé par Monsieur Veillet sur le fait que les femmes, lorsqu'elles faisaient du trading, étaient excellentes. Pourquoi? Parce que justement, ces femmes n'avaient pas d'ego. Donc, elles géraient un petit peu mieux, et je dis bien un petit peu mieux, leurs émotions que les hommes. Pourquoi? Parce que là encore, il y a des croyances. On pense que les femmes sont meilleures que les hommes. Que nous a montré notre recherche? Que la performance des femmes était aussi mauvaise que
ou aussi bonne
des hommes. D'accord? Et donc, quelque part, il y a cette croyance selon laquelle, si on avait eu plus de femmes, hein, ça a d'ailleurs été relevé par l'ancien ministre de l'économie français, Christine Lagarde, qui disait il faut qu'il y ait plus de femmes dans les salles de marché. Il y a eu des recherches effectuées par Cambridge. Là, nous, on a justement constaté que la performance des femmes était aussi mauvaise que celle des hommes et qu'elles commettaient les mêmes erreurs.
Une question à vous deux avant de se quitter. On arrive au terme de cette émission, Tammy Cabbage, Paul Dembinski. Au fond, est-ce que, à votre sens, rapidement, les traders sont exclus de la réalité, sont déconnectés de la réalité ou au contraire seraient au cœur de celle-ci? Tammy Cabbage.
Alors moi, je pense que effectivement les meilleurs traders sont au cœur de celle-ci. Au cœur de celle-ci pour une raison précise, c'est que effectivement ils vivent sur les marchés en permanence. Ils sont abreuvés d'informations et les meilleurs traders bon, sont des personnes qui arrivent à gérer tout ça. Maintenant, effectivement, on a beaucoup de personnes qui sont complètement déconnectées de cette réalité. C'est-à-dire la grande majorité des personnes qui opèrent sur les marchés. Parce que justement, il y a ce mimétisme, cette psychologie des foules, hein, ce comportement moutonnier des individus qui fait que ces personnes finalement ne sont pas du tout, ne savent pas du tout ce qu'il se passe et finalement se suivent les uns les autres et on a cette déconnexion totale.
Paul Dembinski.
Mais moi, je dirais qu'ils sont au cœur d'une virtu-réalité qui s'impose à la réalité, n'est-ce pas? Déconnecté de la réalité quand on est face à 15 écrans ou 15 courbes, c'est clair qu'on les mange pas, on les touche pas, etc. Mais derrière, il y a quand même des réalités. Il faut un grand effort pour faire abstraction de ces réalités, parce que je crois que c'est la condition de l'exercice même du métier. Il faut abstraire de ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme un chef de troupe qui doit s'abstraire des réalités, des souffrances qu'il impose à tel ou tel autre pour aller de l'avant. Donc il faut s'abstraire d'un certain nombre de réalités et c'est la condition de succès. Mais par le biais de la financiarisation, les effets de ces cours en bourse, etc., s'imposent à la réalité et en quelque sorte la commande. Donc c'est pour ça que ils sont au cœur d'une virtu-réalisation quelque part. Ils ont cette capacité qu'ils refusent d'admettre. Ils ont une responsabilité énorme, et je crois qu'un des points que vous n'avez pas abordé, mais c'est le sujet d'un autre débat, quelle est la responsabilité de ces acteurs? Elle est phénoménale, non pas seulement ceux qui pianotent en dernière ligne sur l'écran, mais ceux qui les mettent en ces positions, et ceux qui structurent les institutions pour qu'ils se mettent en cette position. Donc ce n'est pas une responsabilité du soldat lambda, c'est la responsabilité des maréchaux, des ministres, et des ministres de la guerre aussi.
Et merci de l'avoir rappelé, Paul Dembinski. Merci à vous d'être venu, merci à Tammy Cabbage d'avoir été aussi en direct dans cette émission. Je rappelle que vous êtes Paul Dembinski, économiste, professeur à l'Université de Fribourg, directeur de l'Observatoire de la Finance et auteur de « Finances servantes aux finances trompeuses » aux éditions des Clés de Brouwer. Et Tammy Kabach, vous êtes vous l'auteur de « Psychologie des grands traders » aux éditions Erol. Vous êtes agrégé d'économie et de gestion. Les références de vos deux livres se trouvent sur notre site zonefranche.rsr.ch. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée à vous deux et à 10h59 des nouvelles de la route sur la première.
Merci.
Infotrafic RSR.
Sur la route cantonale reliant la sortie autoroutière de Cossonay à la localité de Cossonay, le trafic est alterné entre le carrefour de Belfond et la gare de Cossonay car un véhicule s'est renversé sur ce tronçon. Les temps d'attente sont à prévoir dans ce secteur. Et côté suisse alémanique, suite à un accident sur l'axe Zurich-Berne, on roule au pas entre Dietikon et l'aire de service de Würenlos en direction de Berne.
Zone Franche, avec Le Matin Dimanche et ses magazines.
Fin de parcours pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Veillet, Paul Dembinski, Tammy Kabach, nos invités, pour vous proposer cette émission. Il y avait Samuel Maurier-Genoux, Jérôme Nussbaum, Marco Aragno, Stéphanie Jovanovic, David Marine et Dany Sulam. Et puis sachez qu'un documentaire sur le négoce des matières premières sera diffusé sur Espace 2 dans Babylone. Ce sera jeudi 8 décembre à 9h ou à 19h, c'est à choix. Après les informations, eh bien c'est Jean-Marc Richard. Le kiosque à musique en direct de RIA spécial Saint-Nicolas. Il est 11h sur la première.